Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 11 février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Des millions d'Iraniens ont célébré vendredi dans l'ensemble des territoires du pays le 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Et anniversaire de la victoire de la révolution islamique, les ambassadeurs étrangers à Téhéran ont été reçus par le président Raïsi. La Syrie condamne fermement l'agression israélienne contre ses territoires. Sergueï Lavrov se dit déçu de sa rencontre avec son homologue britannique. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Des millions d'Iraniens ont célébré vendredi à Téhéran et dans de trop villes et villages du pays le 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran de 1979, soumise à des protocoles sanitaires stricts pour empêcher la propagation de la COVID-19. Les célébrations ont eu lieu à Téhéran et dans de trop régions à partir de 9h30 heure locale, avec des véhicules circulant dans les rues de la capitale iranienne vers l'emblématique place Azadi et Liberté. Toutefois, les Iraniens ont pu assister à la marche à pied dans des régions où moins de cas de COVID-19 par habitant ont été enregistrés. À cette occasion, le président iranien Ebrahim Raisi s'est adressé devant la foule lors de la prière du vendredi dans la mosquée Grand Mossalla de Téhéran, déclarant que l'Iran ne comptait ni sur Vienne ni sur New York, mais sur les capacités intérieures du pays. « Nous ne nous soumettrons à aucune emprise. Nous ne renonçons pas à notre indépendance et nous n'acceptons pas d'opprimer qui que ce soit », a affirmé Ebrahim Raisi, et qui a souligné « Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est le pays le plus indépendant du monde ». Le président iranien a déclaré que les mots d'ordre de la République islamique d'Iran étaient appréciés par le monde entier, car ils relevaient de la nature humaine. La révolution islamique crie la liberté, l'éthique et la justice et rejette l'hégémonie et la tyrannie, a-t-il précisé. et de continuer non seulement la grande nation iranienne, mais en plus les nations du monde émettent de leur espoir sur cette révolution et de veillent à la protection de l'esprit de cette révolution. C'est ce que souhaite tout le monde, a-t-il précisé encore. Le président Raïsi a souligné que le mot d'ordre « non à l'Occident, non à l'Orient » devrait rester immuable car il faisait partie des principes de la révolution. Le président Raïsi a réaffirmé que le développement du pays dépendait de l'unification et de la cohésion de toutes les tendances à l'intérieur de l'Iran. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir du pays. Et plus nous constatons les capacités en croissance, plus nous mettons l'espoir dans l'avenir, a-t-il conclu. Les ambassadeurs et chefs de délégations et organisations étrangères résidant à Téhéran ont rencontré le président Raïsi à la veille de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Les ambassadeurs et les chefs de délégations et organisations étrangères ont rencontré le président Raïsi ce jeudi 10 février, marquant l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Nous allons revenir en détail sur cette rencontre dans notre commentaire politique. L'Iran élargit ses relations équilibrées avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. La République islamique d'Iran est déterminée à développer ses relations équilibrées et bonnes avec les pays d'autres régions, notamment l'Afrique et l'Amérique latine et l'Europe, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. La première réunion du ministre des Affaires étrangères avec tous les ambassadeurs et chefs de mission de la République islamique d'Iran à l'étranger s'est tenue par visioconférence en présence des adjoints et directeurs généraux du ministère des Affaires étrangères à l'occasion des festivités de la décade de l'aube marquant le 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique d'Iran. Lors de cette réunion, après avoir entendu les points de vue d'un certain nombre d'ambassadeurs de la République islamique d'Iran en poste à l'étranger, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, lors d'un discours commémorant l'anniversaire de la révolution islamique et la mémoire du défunt père fondateur de la révolution islamique, l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, et des martyrs de la révolution islamique, a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion des jours bénis de la décade de l'aube. Il a ensuite brossé un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées à la politique étrangère de l'Iran. Amir Abdollahian, se référant au plan évolutif du gouvernement démocratique et issu du peuple du président Raïsi, a déclaré qu'une politique étrangère équilibrée, une diplomatie dynamique et une interaction intelligente constituent les bases des politiques fixées par l'appareil diplomatique du pays dans ses relations avec d'autres pays du monde. La Syrie condamne fermement l'agression israélienne contre ses territoires. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que cette agression constitue une transgression des principes du droit international et des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et leurs résolutions sur le Liban et la Syrie, notamment la résolution du Conseil de sécurité sur le désengagement numéro 350 de l'an 1974. Et le ministère d'ajouter, cette agression est devenue à l'ombre d'un mutisme international et d'une protection assurée par les États-Unis, ce qui encourage l'entité d'occupation israélienne à persister dans ses agressions répétées contre la Syrie et contribue à saper la crédibilité de la communauté internationale et de la soi-disant légitimité internationale mondiale, ce qui conduira inévitablement à aggraver la situation d'une manière dangereuse. Le ministère syrien des Affaires étrangères a fait savoir que le gouvernement syrien met en garde l'entité israélienne contre la poursuite de ces violations et agressions criminelles répétées et flagrantes, affirmant que la Syrie a le droit d'utiliser tous les moyens légitimes pour riposter à de telles agressions. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les agressions israéliennes contre la Syrie constituent une violation de la souveraineté de l'État syrien et se solderont par une escalade grave de la situation. Cité par l'agence de presse Sputnik, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné dans un commentaire publié sur le site web officiel du ministère, les frappes israéliennes permanentes contre des cibles sur les territoires syriens suscitent l'inquiétude et causent de graves risques sur le trafic aérien civil international. Ces agressions nuisent à l'efficacité des efforts déployés par les Syriens et leurs alliés pour éradiquer le terrorisme, a conclu la porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères. Dialogue de sourds, Sergueï Lavrov se dit déçu de sa rencontre avec son homologue britannique. Manifestement mécontent de la tournure qu'a pris sa rencontre avec la secrétaire d'État britannique Liz Truss en visite à Moscou le 10 février, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov n'a pas hésité à faire part de sa déception lors de la déclaration commune et des réponses à la presse données en marge de cette visite. Pour être honnête, je suis déçu qu'on ait une conversation qui soit un dialogue de sourds. On entend, mais on ne s'écoute pas. Du moins, nos explications détaillées sont arrivées sur un terrain mal préparé, a-t-il déclaré. Esquivant un sourire, il a comparé la partie britannique à un bloc de terre gelé. C'est à peu près la même chose que quand on dit que la Russie attend que le sol gèle et devienne dur comme la pierre pour que les chars puissent entrer calmement sur les territoires ukrainiens. Il me semble que c'était le même terrain chez nos collègues, a-t-il dit. Et de fait, la déclaration commune n'a, semble-t-il, pas montré d'entente évidente entre les deux parties, puisque la ministre britannique des Affaires étrangères est restée campée sur la position britannique et otanienne et n'a pas particulièrement cherché à polisser son discours pour l'occasion. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Anniversaire de la victoire de la révolution islamique, les ambassadeurs étrangers à Téhéran reçus par le président Raïsi, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les ambassadeurs, chefs de délégation et organisations étrangères résidant à Téhéran ont rencontré le président iranien Ebrahim Raïsi à la veille de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Les ambassadeurs et les chefs de délégation et organisations étrangères en poste à Téhéran ont rencontré le président Raïsi ce jeudi 10 février à la veille de la date grandiose du 11 février marquant l'anniversaire de la victoire glorieuse glorieuse de la révolution islamique d'Iran en 1979. Lors de cette rencontre, les ambassadeurs étrangers résidant en Iran ont transmis le message de félicitations de haute autorité de leur pays respectif au président Raïsi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique et ont mis l'accent sur le développement et le renforcement des relations avec la République islamique d'Iran. Le président iranien a remercié les ambassadeurs et les chefs de délégation et organisations étrangères en poste à Téhéran et a transmis à cette occasion le message de paix et d'amitié de l'Iran en faveur des interactions mondiales pour diffuser la culture de paix et d'amitié entre les pays et les nations. Le président Raïsi a décrit le message de la révolution islamique comme le déni de l'hégémonie et de la domination, la défense des opprimés, le droit à l'autodétermination et a déclaré « Ces idéaux sont des valeurs universelles dont le rejet signifie le rejet des valeurs humaines et morales ». Certes, la nation iranienne continue dans ce sens et reste déterminée à atteindre ses objectifs et à réaliser ses idéaux. Affirmant que la nation iranienne célèbre ces jours-ci le 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, le président Raïsi a ajouté « Cette révolution est le fruit de la profonde croyance du peuple dans les principes et valeurs transcendants de l'islam et de la quête de la liberté et de la justice, ainsi que d'un leadership sage ». Le président a décrit le message de la révolution islamique comme le rejet de l'hégémonie, de la domination et de la non-ingérence des puissances mondiales dans les affaires intérieures des nations indépendantes. Le message de cette révolution est la défense des opprimés, du droit à l'autodétermination et à l'indépendance dans les affaires intérieures et étrangères. S'y opposer signifie rejeter les valeurs humaines et morales et la fière nation iranienne s'est toujours restée déterminée pour donner suite à ses idéaux. Le président Raïsi a décrit le multilatéralisme, le dynamisme et l'intelligence éveillée comme les caractéristiques de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. La politique étrangère du gouvernement démocratique est issue du peuple de la République islamique d'Iran depuis le début de son avènement, repose sur les principes et les valeurs inscrits dans la Constitution et s'appuie également sur les bonnes directives du leader de la République islamique, de l'Ayatollah Khamenei, basé sur les trois priorités, à savoir l'interaction maximale avec les pays voisins, alliés et partenaires, prêter attention au potentiel des organisations régionales et internationales et le développement de la diplomatie économique, a insisté le président iranien avant d'indiquer qu'heureusement nous avons fait de bons pas dans ce sens.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les relations entre le Mali et la France se sont fortement dégradées et la mobilisation anti-française se propage à travers le pays et même est très contagieuse puisqu'au Burkina Faso et au Niger, on a l'impression donc que ces deux pays et donc suivent le modèle malien. Alors, les Maliens exigent que la France cesse de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et quitte ce pays. En effet, la France n'est pas le seul pays qui, depuis plus de 10 ans presque, a essayé de neutraliser économiquement et militairement le Mali et beaucoup de pays africains. Sachez également que le Premier ministre malien, tout en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, a fait clairement entendre que le Mali avait l'intention de se tourner vers l'axe de l'Est. pas seulement la Russie, mais également vers la Chine et l'Iran pour sauver le Mali. Géopoliticien depuis Bruxelles, Monsieur Michel, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, mon collègue.
Voilà, justement, Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Bonjour, Monsieur Dortiguier.
Monsieur, bonjour à Monsieur Michel et à tous les auditeurs.
Ce que la France a très bien réussi au cours de ces presque 10 années, c'est de neutraliser militairement et économiquement le Mali et bien sûr piller la richesse. Que pensez-vous?
Le but de l'intervention française, c'est pas de combattre le terrorisme. Le terrorisme, au contraire, il fait partie du dispositif militaire occidental. C'est un prétexte à l'ingérence, comme la piraterie dans le golfe de Guinée et au large de la côte de Somalie sert à l'ingérence des marines occidentales. C'est le même phénomène. Aujourd'hui, on a atteint un point de rupture entre le bloc américano-occidental, pas seulement la France, puisque des pays de l'OTAN comme la Suède et le Danemark ont été chassés du Mali. Le point de rupture est atteint des deux côtés. L'Union européenne, vendredi, a pris des sanctions personnelles contre Choguel Maïga et plusieurs membres de son gouvernement. Et tout cela se déroule sur un fond d'accord militaire entre l'État russe, je le précise, et l'État malien qui voit les paramilitaires russes se déployer malgré tous les hurlements du bloc occidental. C'est donc la rupture qui est avérée. Derrière cette rupture, évidemment, elle est constatée par les médias français. France 24 ou Le Point, au cours des dernières 48 heures, ont publié des éditoriaux en disant qu'il était temps de quitter le Mali. Tout cela se fait sur un fond géopolitique et diplomatique. Il y a un livre qui est sorti cette semaine. Il s'intitule cynismativement « Le déclassement français ». Il explique comment la France est déclassée géopolitiquement, pas seulement en Afrique, mais aussi au Proche-Orient, au Liban et en Syrie, par exemple, ou encore dans le Pacifique face à l'Australie. C'est la décadence de la France. C'est d'ailleurs un sujet, cette déchéance française, ce déclassement français, qui imprègne le débat présidentiel. C'est obsessionnel chez des candidats comme Marine Le Pen, comme Valérie Pécresse ou encore comme Zemmour.
Oui. Monsieur Pierre Dortiguier, nous remercions bien sûr Monsieur Luc Michel pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître la vôtre. Donc, il est caché pour personne que la France n'est pas au Mali pour combattre le terrorisme, mais pour piller la richesse de ce pays, car vraiment, on peut le voir très clairement, comme les responsables maliens, justement, en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, expliquent clairement ceci, n'est-ce pas?
En effet, c'est-à-dire c'est la fin de ce qu'on appelait, M. Luc Michel l'a parlé dans une dernière intervention, de la France-Afrique. C'est une réalité qui a duré plus d'une génération et qui était un arrière-fond, disons, un arrière-plan, qui se tenait, disons, derrière les concessions que la France faisait à l'Algérie, que faisait, disons, à la fin des guerres coloniales. Et il existait, disons, une sorte de forteresse africaine et qui était, disons, pour notre économie, une sorte d'État dans l'État. Mais c'est ainsi qu'il faut le voir. Ceci, bien sûr, a craqué. A craqué, à notre avis, non pas sous le coup de la résistance proprement locale africaine, mais de par la formation, justement, d'une entente africaine générale, à laquelle l'Algérie a participé, d'ailleurs, qui était à son berceau, et qui aujourd'hui porte ses fruits, du nord au sud de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une ouverture de l'Afrique à des perspectives intercontinentales et non pas simplement à des relations entre anciens ou perpétuels colonisateurs et néocolonisés, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui adoptent une forme nouvelle de politique économique et financière, mais qui est quand même basée, qui est fondée surtout sur un rapport, disons, de dépendance univoque. Et maintenant, bien sûr, comme l'a dit M. Michel, c'est l'OTAN même qui a été attaquée, visée, disons, à travers le Danemark et la Suède. Enfin, je veux dire que les Africains me semblent avoir une conscience, disons, je dirais, dans le bon sens du terme, conscience mondiale. On parle de vision du monde souvent. Là, il s'agit d'une vision du monde, vous voyez. C'est-à-dire, l'Afrique me semble être entrée justement dans cette vision mondiale, l'Afrique elle-même, de sa conscience, et du nord au sud. Et je crois que ça, c'est une conclusion que les candidats auxquels M. Luc Michel a fait allusion, les candidats à la présidentielle, peuvent, disons, donner des étiquettes différentes. Oui. Mais on est obligé, disons, d'en tirer, disons, cette conclusion. Alors, il y a, bien sûr, des slogans. On essaie d'orienter les gens vers l'intervention russe et autres. En fait, tous ces accords, par exemple, sur le fameux plan de le rôle des mercenaires dont on parle, du groupe Wagner et autres, ne sont que des effets de relations, diplomatiques. Ce sont des accords, disons, des enchaînements d'accords qui aboutissent donc à des mesures de sécurité. On dit lutte contre le terrorisme, mais cette vague dénomination de terrorisme cache bien sûr des prétextes. Le terrorisme, comme que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient, a été le marchepied, disons, des interventions perpétuelles, interventions, j'entends pas perpétuelles, à longue durée, voyez-vous, que se réservent les anciens États colonisés, colonisateurs ou, comme c'était le cas pour nous, en Orient, protecteurs après la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, je crois que nous assistons à une tempête sur l'Afrique, mais une tempête dans une Afrique qui me semble se tenir solidement, voyez-vous, à travers une institution, une conscience africaine plus unifiée qu'autrefois.
Oui. Oui. Luc Michel, tout à l'heure, vous avez évoqué certaines chaînes françaises que, d'après des hommes politiques maliens, exercent un terrorisme médiatique. En fin de compte, la France possède tout de même le média, n'est-ce pas?
C'est tout à fait exact. Ce sont des chaînes qui concernent notamment des médias d'État, France 24, RFI, qu'on appelle en Afrique Radio France Intoxication. Il y a également Arte ou Euronews qui sont cofinancés par Berlin et Paris. Tous ces gens, quotidiennement, dans des dizaines d'articles, exercent un terrorisme, diffament la révolution malienne. On prend par exemple des généraux du Mali alors qu'il n'y a pas de généraux derrière le coup d'État militaire. Ce sont des colonels comme l'était le colonel Kadhafi. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner. C'est un phénomène géopolitique. Il y a quelques années, en 2015, le grand état-major français avait rendu un rapport à l'Élysée. On lui demandait d'identifier l'ennemi de la France et de l'OTAN au cours des 20 prochaines années. Ils avaient dit que ça allait être la Russie, alliée au néo-panafricanisme. Ça a été exact. Aujourd'hui, les forces vives de l'Eurasie en marche, à Pékin, à Moscou et à Téhéran, sont unifiées aux forces vives de l'Afrique en marche du néo-panafricanisme dans une alliance dynamique. C'est ce que j'appelle l'axe Eurasie-Afrique. Cet axe Eurasie-Afrique, il est en train de combattre contre le bloc occidental pour un monde multipolaire et pour mettre un terme au néocolonialisme. C'est cela que les Occidentaux n'ont pas vu arriver, en particulier avec la guerre hybride des Russes et des Iraniens. Vous savez que la guerre hybride, c'est une invention iranienne au Liban en 2010. Elle est aujourd'hui exportée en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Venezuela par exemple, et au Nicaragua. C'est la réalité géopolitique du monde de 2021. Au milieu de tout cela, l'agression occidentale, ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2010 ou le printemps africain de 2014, ils sont mis échec et mat.
Oui. Luc Michel, pour confirmer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le Premier ministre malien a fait clairement entendre que le Mali se tournait vers l'axe de l'Est. Bon, vous avez évoqué la Russie, bien sûr, et même les responsables maliens ont déclaré tout récemment qu'ils avaient acheté des armes à la Russie et pendant ces 20 jours, ils ont tué plus de terrorisme que depuis 20 ans les autres forces.
C'est tout à fait exact. Depuis l'intervention des Russes il y a quelques semaines, il y a des résultats. Il y a des terroristes qui sont identifiés, mis en état de nuire. Il y a en particulier une colonne à moto. Il y avait près de 300 motos. Les autorités algériennes, le service de sécurité algérien, disent que c'est les Français qui avaient fourni les motos aux djihadistes. Une colonne a donc été arrêtée par les services maliens et algériens à la frontière entre les deux pays. On avait vu le même phénomène en Centrafrique. Nous sommes en janvier 2021, alors que depuis 8 ans, les Français et l'ONU, donc les casques bleus de la MINUSCA, sont incapables d'empêcher les groupes rebelles. En quelques semaines, en 21 semaines, ils sont neutralisés par les FACA alliés aux paramilitaires russes, non pas du groupe Wagner qui n'existe pas, mais du groupe Sewa Security. Et en 21 semaines, l'autorité de l'État centrafricain est rétablie sur toutes les préfectures du pays. C'est le même phénomène qui est mis en route, évidemment, au Mali. Et les Occidentaux sont complètement paniqués parce que l'imposture occidentale, la soi-disant guerre au terrorisme qui n'a rien donné en 8 ans, il y a eu 53 morts français. C'est une farce. Au Vietnam en 1960, entre 1960 et 1968, les Américains, dans une véritable guerre pour le contrôle du pays, ils ont eu plus de 100 000 morts. 53 morts, c'est un théâtre, c'est ridicule. L'imposture occidentale et française, elle apparaît au grand jour. Elle est en train d'être démontrée avec l'efficacité de l'armée russe, armée alliée à l'armée locale, ici les FAMA, comme elle est alliée à l'armée locale en Centrafrique des FACA.
Oui. Pierre Dortiguier, votre prise de position, je vous prie, face à ce rapprochement du Mali à la Russie, mais également à la Chine et l'Iran, car les responsables maliens se semblent très contents de se rapprocher et de se tourner vers l'axe de l'Est.
En effet, c'est-à-dire qu'il s'agit là, c'est l'avantage d'un rapport, je dirais, équivoque, d'un rapport, disons, ouvert, un rapport univoque. Ce qu'on appelle un rapport univoque, c'est-à-dire lorsque les alliances sont en réalité des subordinations politiques, économiques, c'est ce que nous appelons la France-Afrique. Évidemment, disons que les États africains, qui sont les États hôtes, sont obligés de se soumettre à une stratégie qui, dans le cas du Mali, considéré les groupes terroristes comme finalement des occasions d'intervention. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois, disons, pourchassés, en même temps qu'ils étaient, si je puis dire, mis de côté, c'est-à-dire mis en réserve. Et il ne s'agissait pas d'une guerre ouverte, d'une guerre, peut-on dire, d'élimination. Non, il s'agissait d'un prétexte renouvelé, voyez-vous. C'est-à-dire l'essentiel étant la présence continuelle. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle une présence, une sorte de tuteur colonial, voyez-vous, néocolonial, postcolonial, quels que soient les mots. Je crois que là, réaction de ce qu'on appelle ici, de façon caricaturale, la junte militaire, on essaie de dire, oui, il n'y a pas eu d'élection, etc., ce n'est pas démocratique, et autres. Tout ceci ne tient pas face à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que la population souffre de plus en plus, justement, de cette guerre, voit le terrorisme, étendre son influence, malgré les injections d'hommes, de matériel que nous faisons en France et en Europe. Donc il y a bien un but, il y a bien, disons, je ne dis pas une intention cachée, une direction quand même, que le peuple est capable de voir, puisqu'il en souffre immédiatement. Je crois que cette réaction de la part du gouvernement malien a d'abord été, en premier, et le sera, une réaction populaire. Et ceci est une réaction, disons, qui peut ébranler l'ensemble de l'Afrique. Je crois que les Africains ont été immédiatement sensibles, tous, justement, à cette réaction-là. Elle n'était pas attendue, car il y a toujours eu une sorte de morgue, si je puis dire, néocoloniale, postcoloniale, qui consiste à considérer l'Afrique comme un grand enfant, voyez-vous. Je crois que c'est M. Michel ne me contredira pas. C'est une maladie, si je puis dire, qui est une sorte de, qui est un manque de mûrissement, je dirais, à la fois dans la conscience mondiale, que nous n'avons pas, les Français, malheureusement, sont élevés dans une attitude post-coloniale et non pas dans une attitude de connaissance du monde, comme celle que le président de Gaulle avait voulu insuffler. Et là il a échoué. C'est la France-Afrique, au contraire, qui s'est maintenue à travers lui, je le dis bien, mais aussi après lui. Voilà, c'est cela qui compte. Et cela aura des répercussions, à notre avis, très importantes sur le plan intérieur français.
Luc Michel, les répercussions que M. Pierre d'Ortiguier fait allusion, est-ce qu'on peut parler d'une mobilisation anti-française à travers toute l'Afrique?
Oui, dans tous les pays africains, les masses néo-panafricanistes sont vent debout contre la France. Et un phénomène nouveau, cette irruption des masses panafricaines. Aujourd'hui, les chefs d'État qui étaient des sous-préfets français comme Alassane Ouattara ou Mohamed Bazoum au Niger, ils sont obligés de tenir évidemment compte de ces masses et de prendre en compte leurs préoccupations. C'est le résultat du travail unique au monde d'un média qui est nos confrères d'Afrique Média, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis bientôt cette année. C'est Afrique Média qui a conscientisé les masses et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'Africains qui sont mobilisés. Par exemple, au Mali, il y a eu des manifestations vendredi. Bamako s'est couvert de drapeaux russes et chinois. Les dernières manifestations n'ont pas réuni quelques centaines ou quelques milliers de Maliens, comme le disent les médias français, mais près de 4 millions. C'est cela la réalité. Maintenant, il faut dire un mot sur le général de Gaulle, parce que il faut quand même dire que c'est l'homme politique français qui est le plus détesté en Afrique. De Gaulle, ça a été un libérateur. En Afrique, on se souvient de son slogan de l'Europe jusqu'à l'Oural avec l'URSS. Ça a été un libérateur au Mexique et au Québec. Ça a été un libérateur à Phnom Penh en Indochine. Mais en Afrique, ça a été un néocolonialiste et un néo-esclavagiste. Avec son âme d'année Foucault, qui dirigeait les services de police secrète du gaullisme, il a mis au point cette France-Afrique qui, en fait, était un mécanisme de confiscation des indépendances africaines au bénéfice de la France. Pourquoi est-ce que la France est au Mali, par exemple, et au Niger? C'est pour l'uranium de ces pays. La France, elle exporte avec Areva des centrales nucléaires, mais on ne produit pas une once d'uranium sur le sol français. L'uranium, il est volé au Niger, il est volé au Mali. C'est cela qui se termine. Par exemple, le grand concurrent russe d'Areva, qui est Rosatom, puisque Rosatom est présent maintenant dans 15 pays africains, par exemple, il produit son uranium en Mongolie extérieure sur le territoire russe. Voilà la différence. On vole le pétrole, on vole le gaz, on vole l'or, on vole le manganèse. La France a par exemple les quatrièmes réserves d'or mondiales, alors qu'on ne produit pas d'or sur le territoire français, pas plus que d'uranium. L'or des réserves françaises, il est volé en Afrique. Il est temps que ça se termine. Et l'homme qui a avalisé ce vol et qui l'a mis au roi avec Foucault, c'est le général de Gaulle.
Pierre d'Ortiguier, est-ce que la France va laisser la main à la Russie? Car on voit que la dernière carte à jouer par la France, c'est la sanction exercée économiquement à l'encontre de 5 responsables importants maliens en gelant leurs biens, en leur interdisant d'entrer sur le sol des pays occidentaux. Est-ce que la France va laisser la main?
Je pense que la France sera obligée de laisser la main, car, disons, le combat est trop élevé pour elle. La France ne peut avoir, d'efficacité. C'est un slogan peut-être, mais enfin c'est une réalité à mon avis, qu'à l'intérieur d'une entente européenne. Or, cette entente européenne d'hostilité à la Russie n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée par l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne s'est divisée. S'est divisée d'une façon, convenue, dans l'ordre, comme ce qu'elle fait. Elle a une partie qui est favorable à la Russie, une partie qui est favorable aux États-Unis. Et je crois que la France, son influence en Europe et par là même réduite, dans la mesure où, je répète sur ceci, l'Allemagne, elle, tente de, vers les États-Unis ou vers la Russie, disons, d'augmenter sa propre influence. Cette politique franco-allemande, qui était celle d'ailleurs du général de Gaulle autrefois, n'est plus de mise aujourd'hui, et donc la France se retrouve isolée, affaiblie, voyez-vous, considérablement affaiblie, et je crois qu'elle ne peut pas jouer le même rôle qu'elle a prétendu jouer jusque, disons, M. Sarkozy ou M. Hollande. Je crois que c'est là une fin de chapitre, et ces événements du Mali sont, à mon sens, la véritable fin de l'ancien colonialisme français.
Luc Michel, vous aurez le dernier mot du débat d'aujourd'hui. Votre réaction, je vous prie.
La France, elle n'est pas prise seulement dans une tenaille face au bloc de l'Est et surtout à la Russie. Elle est également prise dans un triangle d'acier. Il y a le bloc de l'Est, il y a les masses panafricaines, mais la troisième mâchoire de la tenaille, c'est ceux qui étaient les alliés de la France, les Américains. La France-Afrique s'est maintenue pendant 60 ans parce que la France avait noué une alliance avec les Américains à partir de Giscard d'Estaing. On disait que la France était le gendarme de l'Afrique, Donald Trump disait le shérif. Mais depuis 2019, les Anglo-Saxons, les Britanniques et les Américains, ils sont en rivalité économique, c'est le Brexit par exemple, avec les Français, et ils veulent reprendre les marchés africains des mains des Français. Les Américains veulent donc américaniser et otaniser la guerre du Sahel en l'enlevant aux mains des Français. C'est cette perte de l'allié américain que payent les Français, ils ne s'en sont pas rendus compte. Le journal Le Temps, il y a quelques jours, disait que l'arrogance d'Emmanuel Macron n'avait d'égal que sa stupidité. Macron joue les proconsuls au Liban, il joue les sauveurs de la paix en Russie, il rencontre Poutine ce jour, mais en même temps, il adopte des sanctions contre les amis de Poutine qui sont les dirigeants des paramilitaires russes. Il agresse la Russie en Ukraine, en Méditerranée, un peu partout en Mitteleuropa et également au Proche-Orient. La France, évidemment, elle paye cette attitude ambiguë et elle paye surtout cette posture géopolitique où elle joue qu'on va être un des cinq grands alors qu'elle est une petite puissance déclassée au milieu d'une Europe qui, elle, n'est qu'un nain géopolitique alors qu'elle est un géant économique. Au sein même de l'Europe, la France s'est déclassée en combattant l'Allemagne, en Libye par exemple, etc., etc. La France n'a pas compris qu'on était dans une nouvelle ère géopolitique. Elle le paye aujourd'hui. C'est la fin de la France-Afrique. Il y a quelques semaines, lors du sommet de Montpellier, la dernière biographie de la France-Afrique a été sortie. Elle s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de l'Empire français. Et le responsable, c'est Emmanuel Macron, avec ses homélies, Madame Parly et Le Drian. Le Drian, le nouveau monsieur Foucault. Mais Foucault avait bâti la France-Afrique. Le Drian, lui, avec son arrogance, il est en train de la détruire.
Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Les cinq cercles brisés. Les États-Unis appliquent désormais systématiquement à la Chine le traitement qu'ils réservaient jusqu'alors à la seule Russie. Ce faisant, ils contraignent les deux premières puissances militaires du monde à renforcer leur alliance, ce qui relativise celle de l'Atlantique Nord. Les Jeux olympiques d'hiver de 2014, qui s'ouvrirent à Sotchi en Russie le 7 février, à la veille de l'explosion de la crise ukrainienne avec le putsch de Place Maïdan le 18 et 20 février, furent définis dans la campagne médiatique anti-russe comme les Olympiades du tsar Poutine. Le président Obama et le vice-président Biden, suivis par d'autres, les boycottèrent en accusant la Russie de violer les droits humains des LGTB. Même scénario aujourd'hui avec les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, définis dans la campagne médiatique anti-chinoise comme les Jeux de pouvoir de Xi, le grand timonier olympique. Le président Biden les a boycottés, accusant la Chine de violer les droits humains des Ouïghours. À la suite des États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Lituanie, l'Estonie et le Kosovo, bien connu pour sa défense des droits humains, sous enquête pour trafic d'êtres et d'organes humains, ont déclaré le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Le boycott fait partie de la stratégie de Washington d'endiguement de la Chine. Elle n'est pas restée simplement l'usine du monde où les multinationales états-uniennes et européennes ont délocalisé depuis des décennies une grande partie de leur production en y faisant des profits colossaux. La Chine a réalisé son propre développement productif et technologique et sur cette base, des projets comme la nouvelle route de la soie, un réseau terrestre, routier, ferroviaire et même maritime entre la Chine et l'Europe et à travers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et la Russie. Dans ce cadre, les relations économiques entre la Chine et la Russie se sont renforcées, surtout après les sanctions imposées à la Russie par les États-Unis et l'Union européenne. Les échanges entre les États-Unis et la Chine restent majeurs, mais étant donné que de nombreux produits sur le marché états-unien sont fabriqués en Chine par des multinationales américaines ou fournis par des sociétés chinoises, les États-Unis enregistrent dans le commerce bilatéral un déficit de plus de 300 milliards de dollars annuels. La Chine a en outre fortement réduit ses propres investissements aux États-Unis. Plus grave encore pour Washington, le fait que le pourcentage en dollars des réserves monétaires chinoises a sensiblement diminué et que la Chine cherche des monnaies alternatives à celles des États-Unis à utiliser dans le commerce international, mettant en danger l'hégémonie du dollar. Ne pouvant pas arrêter ce processus qui peut mettre fin à la domination économique des États-Unis, Washington jette son épée sur le plateau de la balance. L'endiguement économique devient endiguement militaire. L'amiral Philip Davidson, alors chef du commandement de l'Indo-Pacifique, la région qui, dans la géopolitique de Washington, s'étend de la côte occidentale des États-Unis à celle de l'Inde, a demandé au Congrès 27 milliards de dollars pour construire autour de la Chine un rideau de bases de missiles et de systèmes satellites. Nous devons commencer à affronter la Chine depuis une position de force, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken. C'est dans ce cadre que se place l'AUKUS, le partenariat stratégico-militaire constitué par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie avec l'impératif d'assurer la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique. Les États-Unis et la Grande-Bretagne aideront l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, armés de missiles, sûrement aussi à tête nucléaire, comme le Trident D5 US, qui peut transporter jusqu'à 14 têtes thermonucléaires indépendantes. Ces sous-marins, de fait, donc sous-commandant américain, en s'approchant des côtes de la Chine et de la Russie, pourraient frapper en quelques minutes les principaux objectifs dans ces pays avec une capacité destructrice équivalente à plus de 20 000 bombes d'Hiroshima. La Chine et la Russie renforcent en conséquence non seulement leur coopération économique, mais aussi politique et militaire. Dans la déclaration conjointe à Pékin, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine ont souligné que la Russie et la Chine s'opposent aux tentatives de forces externes de miner la sécurité et la stabilité dans la région adjacente et qu'elles s'opposent aussi à l'élargissement ultérieur de l'OTAN. La stratégie USA-OTAN de la tension et de la guerre qui ramène à la confrontation entre blocs opposés brise les cinq cercles entrelacés, symbole olympique des cinq continents unis pour un monde meilleur et pacifique selon eux.
Thank you.